confidentiel. RTL. Ophélie Meunier.
Bonjour Nicole Bacharan.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous sur RTL. Vous êtes écrivaine, politologue, grande spécialiste de la société américaine. C'était une semaine importante pour la course à la prochaine présidentielle, vous en avez beaucoup parlé. Donc avec ce fameux Super Tuesday, comment l'Amérique a vécu cette semaine? Nous, vu d'ici, on l'a couvert évidemment dans les médias. Parlez-nous de là-bas, comment ils l'ont vécu depuis là-bas?
Écoutez, tout le monde a assisté au triomphe de Donald Trump. Alors d'une part, du côté de Joe Biden, effectivement, il a remporté toutes les primaires, mais il n'y avait aucun suspense. Du côté de Donald Trump, il a éliminé sa dernière rivale, donc il est le candidat républicain. La Cour suprême a pris successivement deux décisions qui lui sont très favorables, qui probablement vont empêcher les grands procès, les principaux qui devaient avoir lieu avant l'élection et qui n'auront probablement pas lieu. Donc, triomphe pour Donald Trump.
On va y revenir rapidement sur ces procès pour bien que nos auditeurs...
Mais côté citoyen américain, une forme d'inévitable et de lassitude. On sait que c'est un pays profondément divisé, mais en même temps, il y a un accord large, 70%, qui ne veulent pas ou qui n'auraient pas voulu de ce match retour Biden-Trump. Ils sont trop vieux, on les a trop vus, et néanmoins, ça sera eux. Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu un enthousiasme délirant.
Donc je repose un peu le contexte pour nos auditeurs. Joe Biden ne comptait pas en face de lui de sérieux rivaux pour l'investiture, ce qui est plutôt habituel pour un président sortant. Mais plus étonnant, donc Donald Trump, en tant qu'ex-président qui tente de revenir à la Maison-Blanche, lui... Eh ben, il n'a pas laissé de place à un éventuel concurrent. Pour le dire un peu cash, il a plié le match. Vite fait, bien fait. Alors ça, juste pour bien comprendre, c'est très inhabituel pour les Super Tuesday. Généralement, avant une élection américaine, il y a un suspense qui est d'ailleurs assez sympa à vivre pour les Américains.
Mais oui, parce que les primaires, ben c'est le moment où un parti voit toutes les ambitions se libérer, et on débat, et on s'engueule, et on prend des coups. Mais en général, ça dure quand même jusqu'à mars, avril, mai. Je me souviens en 2008, entre Hillary Clinton et Barack Obama, ça s'était terminé au mois de juin.
Ouais.
Là, c'est plié, comme vous le dites. Très bien, dès le début du mois de mars. Et d'une certaine manière, il nous manque un vrai match.
Ouais, et puis le suspense. Il y a 4 ans, Nicole Bacharan, à quel point c'était inattendu de se retrouver avec un match retour, avec un duel Trump-Biden pour 2024.
Ça semblait inenvisageable. En fait, après les émeutes,
l'assaut du Capitole,
du 6 janvier 2021, tout le monde pensait que la carrière politique de Donald Trump, elle était finie.
C'est dingue.
Personne ne se disait, il va pouvoir s'acharner pendant 4 ans à rester présent dans les médias, dans l'ambition, dans sa volonté de revanche. Il va se fatiguer, il va s'user. En 2022, on a eu des élections législatives de mi-mandat où les candidats qu'il a soutenus ont généralement fait un mauvais score. Donc, à nouveau, on s'est dit, bon, Donald Trump, il est fini. Et puis, il a remonté, galvanisé par l'envie de revanche. Et je pense que cette envie de revanche, elle marque aussi la campagne de Joe Biden. Il est probable que Joe Biden n'aurait pas cherché un deuxième mandat s'il n'avait pas vu arriver son pire ennemi, il faut bien le dire, comme prochain adversaire.
Vous pensez qu'il ne se serait pas représenté si ça n'avait pas été Trump ?
C'était son projet de départ, faire un seul mandat, puis passer la main
on sait bien
à la prochaine génération.
Qu'une fois qu'on a goûté,
c'est renoncer à la présidence, je pense que pour lui, ça aurait été très très difficile. Mais alors que ce soit Trump qui revienne, je crois que c'est insupportable. Ouais.
Alors, comment il a fait pour revenir? Vous l'avez très bien expliqué. Donc, il y a 4 ans, on n'imagine pas ce match retour. En 2022, on n'imagine toujours pas ce match retour. On est donc début 2024 et ça y est, ce match retour, c'est plus qu'on l'imagine. C'est qu'il va...
Il est là,
il va avoir lieu. Comment il a fait, Nicole Bacharan?
Écoutez, je pense que il s'est imposé comme le patron du parti républicain avec toutes les stratégies qu'il a développé non pas simplement en tant qu'homme politique, mais même bien auparavant, en tant que star de télé, en tant que battleur,
entrepreneur,
mais aussi avec un talent que moi je n'apprécie pas, mais un vrai talent pour décerner le point faible de quelqu'un, le tourner en ridicule avec énormément de cruauté et décourager beaucoup de politiques qui n'en peuvent plus.
Mais cette semaine encore, il parle de Biden l'endormi, hein, si je ne me trompe pas. Enfin, on parle quand même du président des États-Unis. À un moment donné, il faut replacer la chose, quoi. On ne dirait jamais ça du président Macron.
Non, il n'a aucune limite, Donald Trump. C'est-à-dire que le monde du pugilat, du match de catch, de la télé-réalité la plus brutale, il la transpose sans aucun complexe en politique. Et vous avez cette année, pour l'élection de 2024, beaucoup d'élus du Congrès qui renoncent, beaucoup d'élus républicains notamment, qui n'en peuvent plus. Et côté démocrate, même le climat est tellement dur au Congrès, et les attaques de Trump sont tellement horribles sur le physique, sur l'âge, sur la santé, sur les origines ethniques ou religieuses. C'est tellement affreux à subir qu'au fond, il a éliminé des gens qui sont partis, et puis il y en a beaucoup d'autres qui se sont couchés, qui ont agi de manière à être dans ses petits papiers, ne pas le contrarier. Et petit à petit, il a vraiment pris l'ascendant sur ce parti républicain, qui est devenu aujourd'hui le parti de Trump.
C'est une soif de revanche qui l'anime. C'est quoi son moteur? Qui est cet homme?
C'est un homme qui est vraiment en colère. Je pense qu'il est né en colère. Il a été élevé dans une famille où le père était extrêmement dur, où il exigeait de ses enfants que ce soit des gagneurs. Trump a toujours un besoin de reconnaissance, et au fond, aucune reconnaissance n'est suffisante. Quand il était jeune, il voulait être un mania de l'immobilier à New York, mais particulièrement à Manhattan, parce qu'il ne faisait pas partie des élites de Manhattan, et il n'a jamais été accepté. Parce qu'à Manhattan, vous avez une forme d'aristocratie new-yorkaise, l'argent ancien, comme on dit, les familles qui sont là depuis toujours, que l'on voit dans les grands galas, dans le sponsoring pour le ballet, pour les orchestres, etc. Et Trump, c'est, bon, disons-le, un grossier personnage qui déboule dans tout ça comme un éléphant dans un jus de quille, et qui s'est toujours senti méprisé. Et se sentir méprisé et prendre sa revanche, mais aussi écrasé véritablement les gens par qui il se sent méprisé, c'est un de ses grands moteurs dans la vie.
Et ça lui réussit, en plus. C'est ça qui est incroyable. Et ça lui réussit. La justice pourrait encore, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, hein, mais la justice pourrait encore empêcher Trump de gagner en novembre 2024 ou pas?
En tout cas, elle ne pourra pas l'empêcher de se présenter. Okay. Elle ne pourra pas empêcher qu'il soit le candidat républicain le 5 novembre.
On rappelle qu'il a écopé d'une amende de 355 millions d'euros pour fraude, et il est au tribunal pénal fin mars.
Absolument. Et il y a 4 procès au pénal qui étaient prévus. Quand on dit pénal, ça veut dire possiblement assorti de peine de prison. Et ne pas aller en prison, c'est aussi une de ses motivations. Mais de ces 4 procès, pour autant qu'on puisse se projeter dans l'avenir, un seul aura lieu, celui qui doit ouvrir le 25 mars, sur la manipulation des comptes de campagne de 2016, notamment à travers le paiement d'un pot de vin à une actrice du porno pour acheter son silence sur la liaison qu'elle aurait eue avec Donald Trump. Ça aura lieu parce que les faits ont eu lieu avant que Donald Trump soit président. Par contre, il y a 3 autres procès au pénal sur des faits qui se sont produits pendant sa présidence, donc la tentative de manipulation des élections de 2020 en Géorgie, le fait de ne pas avoir voulu rendre les documents classifiés qu'il avait entassés dans ses cartons à Mar-a-Lago, et surtout son rôle dans l'assaut du Capitole du 6 janvier. Eh bien, Donald Trump est allé au tribunal pour dire « J'étais président, j'ai une immunité totale », et la Cour suprême vient de décider tout récemment qu'elle allait examiner cette question, qu'elle tiendrait des auditions fin avril, qu'elle prendrait sa décision fin juin, début juillet. Et ce qui, si jamais le procès devait avoir lieu, ben ce serait en octobre-novembre.
Oui, donc trop tard.
On peut les oublier.
On peut les oublier. Enfin, il y a quand même ce
dans
procès.
Dans cette période-là, en tout cas.
Il y a quand même ce procès de fin mars. S'il écope d'une peine. Enfin, je vais au bout du raisonnement, mais s'il écope d'une peine de prison.
Il fera appel, ça déjà.
Oui, il fera appel et ça repousserait, quoi.
Ouais,
et ça repousserait.
Et puis, il trouvera des vices de forme.
Autant se dire qu'il va
et
aller
puis,
au
bout. Et puis, si jamais, à l'extrême limite, en poussant le raisonnement, effectivement, il allait en prison, mais peut quand même continuer à faire campagne, il en ferait un très bon argument pour dire « je suis une pauvre victime ».
Ouais. Il peut le faire en 2024. Il peut le faire en novembre 2024.
Il peut gagner. Ça n'est pas fait, parce qu'il y a une partie de l'électorat républicain qui ne veut pas de lui. Mmh. Et donc là, vous avez 30% en gros, qui le suivront jusqu'en enfer, quoi qu'il fasse, mais ça fait pas 51%. Donc, que se passera-t-il avec l'électorat, par exemple, de Nikki Haley, qui représente des républicains plus modérés, plus centristes, plus raisonnables? Voteront-ils Trump ou pas? Ça, c'est un peu l'inconnu.
Qui sont ces 30% dont vous parlez, Nicole Bacharan? Qu'est-ce qu'il incarne aujourd'hui pour ces Américains-là, Donald Trump? Quand il reste du rêve américain, qu'est-ce qu'il incarne?
En fait, je trouve que c'est important de se souvenir que parmi ces 30% qui adorent Trump, il n'y a pas que des gens affreux et méchants et cruels. Vous allez dans des États, moi j'étais cet été dans le Michigan, dans le Wisconsin, ben vous avez de vrais braves gens, tranquilles.
Et non, mais c'est important de le dire.
Voilà, et qui vous disent, ben, on vivait quand même un peu mieux chez Trump. L'économie était meilleure, les salaires étaient meilleurs, c'était en fait...
Et c'est des arguments qui s'entendent en plus.
Voilà, mais... ils veulent pas forcément la mort du prochain. Ceux qui vont dans les meetings... Là, ils sont vraiment chauffés à blanc et ils sont pas très sympathiques, il faut bien le dire. Et là, on voit que le public est essentiellement blanc, plutôt âgé, c'est des gens généralement qui n'ont pas fait d'études et qui se sentent souvent déclassés. Voilà. Alors, vous avez des démocrates très branchés qui viennent leur expliquer que leurs jobs sont ringards et qu'ils polluent et qu'il faut passer à autre chose et que leur mode de vie, la chasse, la pêche, l'église le dimanche, tout ça c'est complètement dépassé. Et Trump, eh ben, il leur dit, ben non.
Non, moi je...
Voilà, je suis votre homme et je parle pour vous et vous avez le droit d'exister. Ouais. Vous avez des gens très religieux, alors là pour moi c'est quand même toujours une surprise, qui suivent Trump à cause des juges anti-avortement qu'il a nommés en grand nombre. Mais enfin, Trump et la religion, pour moi, il y a deux. Oui. C'est une équation qui ne marche pas.
Pas mal de choses, il y a des équations qui ne marchent pas très bien. Si d'ailleurs, vous l'évoquez, si Trump est une nouvelle fois élu président des États-Unis, quel droit serait vraiment menacé en Amérique? L'IVG, par exemple?
Alors, l'IVG, elle va très très mal, hein, parce que vous avez plus de 20 États où c'est devenu ou interdit ou extrêmement difficile à pratiquer. Même, il y a beaucoup de femmes, celles qui ont des grossesses à risque, par exemple, qui n'arrivent pas à se faire soigner.
D'ailleurs, je fais une petite aparté. On a vu, évidemment, notamment le New York Times reprendre cette semaine que c'était, donc chez nous, inscrit officiellement dans la Constitution, le droit à l'avortement pour les femmes. Comment les États-Unis ont vu cette nouvelle chez nous
Vraiment, c'est quelque chose qui a été très regardé. Ouais. Autant il n'y a pas forcément une passion pour l'actualité française, mais là, c'est vraiment pionnier et c'est quelque chose que les Américaines en particulier ont mis en avant, c'est ce qu'elles souhaitent.
Ouais.
Si ce n'est la Constitution, du moins une loi fédérale qui passe au-dessus de la Cour suprême et qui garantisse ce droit fondamental pour les femmes.
Donc ça, ce serait clairement... On sait qu'aux États-Unis, voilà, c'est un droit qui est déjà... pas très, menacé, pas, c'est un vrai souci actuellement. Si Trump débarque, on est vraiment sur un vrai risque.
Bizarrement, ça ne va peut-être pas s'aggraver, sachant que c'est déjà très grave. Parce que Donald Trump, il est quand même très malin en matière électorale, et il voit bien qu'il n'a pas une majorité républicaine sur ce sujet, sur l'interdiction ou la restriction extrême. C'est poussé par des élus locaux, des juges locaux extrêmement militants, mais au moment de voter, les femmes, qu'elles soient républicaines ou démocrates, leur parcours de vie se ressemble quand même beaucoup. Et Donald Trump est en train d'essayer de mettre en avant un pseudo-compromis, par exemple un accord sur 14 semaines, 15 semaines, sachant que ça interdirait ensuite tout ce qu'on appelle en France les avortements thérapeutique, c'est-à-dire très tard. Quand il y a un danger immédiat pour la vie de la mère ou de l'enfant à venir. Donc Trump au pouvoir, je pense qu'on restera à peu près dans la même situation calamiteuse sur l'avortement tant que sans qu'elle s'aggrave encore.
Mais ça reste pas joyeux.
Absolument.
C'est quoi l'Amérique républicaine aujourd'hui ? On n'est plus du tout sur l'Amérique de Lincoln ou de Reagan ?
Ah, sûrement pas celle de Reagan, en tout cas. Je pense que Reagan serait inéligible par son propre parti aujourd'hui et serait considéré pratiquement comme un gauchiste.
Okay, ouais. Alors
qu'il était quand même très conservateur. Je pense également que ce qu'a dit Donald Trump si les alliés de l'OTAN ne payent pas suffisamment, je dirais aux Russes qu'ils peuvent les attaquer, alors que Reagan, c'est quand même celui qui a gagné la guerre froide, qui a aidé, s'il ne l'a pas fait tout seul, mais qui a aidé à amener la fin de l'URSS. Je crois qu'en effet, on est dans un parti tout à fait différent, qui se répercute pas forcément jusqu'à tous les électeurs, parce que on l'a dit, bon, il y a beaucoup de braves gens qui choisissent démocrates, républicains un peu au dernier moment, un peu en fonction de la qualité et de leur vie et du pouvoir d'achat, et qui sont pas des enflammés de la politique. Mais ce qu'a amené Donald Trump, je pense que c'est une extrême brutalité dans le langage. Moi, ce que j'appellerais un abaissement fort de la morale publique, de ce qu'on peut dire, des critiques que l'on peut faire, de la manière de démolir un adversaire dans n'importe quel domaine. Et malheureusement, je pense que ça, c'est quelque chose qui reste. Et puis, il n'a pas créé, mais il contribue à cet isolement, vous savez, de l'information, où chacun reste dans sa bulle à travers les réseaux sociaux.
C'était exactement ma prochaine question, Nicole Bachar.
Voilà,
avec Trump à sa tête, l'Amérique pourrait encore plus sérieusement s'isoler.
Ah, absolument. Ouais. Et je veux dire, si vous prenez cet électorat trumpiste forcené, pas les hésitants, ceux qui vraiment veulent Trump tel qu'il est, ils pensent que par exemple, que l'attaque du Capitole a été fabriquée par le FBI. Ils pensent que l'élection de 2020 a été gagnée par Donald Trump. Et ils mentent pas. Ils en sont tout à fait convaincus. Et ils reçoivent tous les jours des informations qui confortent ces points de vue très, très loin du monde réel.
De quelle manière Macron et Trump se sont quittés ?
Vous savez, le président Macron est quelqu'un qui pense qu'il peut dompter les lions dans la cage et même faire sauter le gros lion à travers le cerceau enflammé. Il a essayé. il a essayé avec Donald Trump, il a essayé avec Vladimir Poutine. Ça ne marche pas. Ce genre de personnalité est indomptable.
S'il se retrouvait là, en novembre 2024, ça donnerait quoi, à votre avis, Nicolas?
Je pense que Emmanuel Macron a perdu toute illusion sur sa capacité à dompter Donald Trump, ou même à le canaliser un petit peu. Donc je crois que de son côté, les relations seraient polies, protocolaires, normales. Et du côté de Donald Trump, il a toujours besoin d'être sûr qu'il écrase celui qui est un concurrent possible, une comparaison possible, un rival possible. Donc je ne pense pas qu'il serait très aimable.
Vous, personnellement, vous pensez qu'il peut être élu ?
Je pense qu'il peut être élu, oui. Mais je ne suis pas du tout sûre qu'il le sera. Et je crois que ça dépendra essentiellement de deux choses, outre l'économie, l'immigration, etc. Oui. Mais ça dépendra de la capacité de Donald Trump à faire peur à trop de gens. C'est quelqu'un qui fait peur, quand même, à beaucoup de gens. Et d'autre part, ça dépendra de l'adversaire. Ça dépendra de la santé du camp Biden, dont on sait que, quand même, le talon d'Achille, c'est l'âge, la fragilité physique apparente. Donc, c'est pas joué, mais la réélection de Donald Trump n'est pas du tout impossible.
Et vous êtes sûr que là, en l'état, Biden ira, en tout cas, jusqu'au bout ?
Biden est déterminé
à
aller jusqu'au bout, mais parfois, on ne commande pas au destin.
Alors, question du tac au tac, je vous laisse le temps de répondre parce que ce n'est pas forcément facile. Et puis, c'est ce qui vous vient, hein, ce n'est pas forcément
oui,
là.
Une réponse courte.
Les derniers mois. Petit jeu, question-réponse du tac au tac sur Donald Trump. Selon vous, Nicole Bacharan, son plus grand mensonge ? C'est pour ça que je vous laisse, ça vous fait beaucoup rire. Je vous laisse un peu réfléchir si vous en. Je sais que c'est pas facile de répondre du tac au tac, mais en tout cas.
Il a beaucoup menti. Ouais. Mais je pense que le mensonge le plus grand et celui qui a le plus d'influence, c'est le fait de dire qu'il a gagné l'élection de 2020.
De 2020. Son plus grand échec.
Ne pas être resté au pouvoir après 2020.
Après 2020. Et sa plus grande réussite.
Deux plus grandes réussites, construire cette image de businessman fabuleuse, alors que bon, certes, il a gagné beaucoup, beaucoup d'argent, mais enfin, c'est pas si impeccable que ça. Et puis, être le candidat cette année, alors qu'on le donnait pour mort politiquement.
C'est bluffant. En tout cas, quoi qu'on pense de Donald Trump,
c'est bluffant.
Il y en a une autre dont on parle beaucoup ces derniers temps, c'est Taylor Swift. Alors, pour ceux qui ne situent pas Taylor Swift, donc grande pop star américaine, et au-delà des frontières, des sondages disent qu'elle pourrait faire basculer l'élection. Elle a une telle aura, une telle communauté, une telle influence à elle seule. On l'a vu récemment, elle a même fait gonfler les audiences du Super Bowl. Est-ce que vous pensez qu'elle peut, si elle soutient officiellement un candidat, elle peut clairement faire basculer l'élection américaine, présidentielle américaine.
Je ne sais pas si Taylor Swift peut inverser le score, disons. Mais si elle s'engage pour Joe Biden, et je pense qu'à un moment elle dira qu'elle soutient Joe Biden, je pense qu'elle peut quand même lui apporter pas mal de voix. Elle a une influence colossale.
Mais si c'est serré, ça peut faire basculer.
Ça sera serré, ça on le sait.
Qu'est-ce qui arriverait de mieux à l'Amérique et au monde en novembre prochain, Nicole Bacharan ?
Écoutez, en dehors de du titre des partis démocrates ou républicains, qui souvent, à mes yeux, n'importe pas tant que ça, j'espère quand même que Joe Biden sera élu, puis qu'il passera la main, peut-être immédiatement, peut-être au cours de son mandat, parce que authentiquement, le Donald Trump de 2024 n'est pas celui de 2016. Son programme est beaucoup plus dur, et en plus, maintenant, il a une équipe constituée qui saurait l'appliquer. En 2016, c'était des amateurs, ils ne savaient pas faire. Là, ils ont un programme autoritaire avec toutes les étapes prêtes.
Ils ont un mandat de 4 ans dans les pattes, donc
exactement.
Ils savent ce que c'est.
Ouais. Et tout le personnel prêt à l'appliquer. Tous les gens qui pouvaient canaliser, contrer Donald Trump au sein de l'administration disparaîtraient.
Vous serez où en novembre 2024, Nicole Bacharan ?
Normalement, je serai aux États-Unis.
Aux États-Unis. Vous nous raconterez ça de là-bas. Merci beaucoup, Nicole Bacharan, pour vos éclairages, votre décryptage. Politologue franco-américaine, auteur. Je rappelle donc pour nos auditeurs votre livre sur Donald Trump, Le Monde selon Trump, c'est aux éditions Taliandier. Et puis votre dernier ouvrage aussi à découvrir qui s'appelle La plus résistante de toutes et c'est chez Stock. À bientôt sur RTL.
Merci.
Ravie de vous avoir retrouvé. Merci à tous d'avoir été à l'écoute de ce confidentiel. Merci à l'équipe d'Annie Matouk à la réalisation, Thomas Pierre à l'écriture et Marie-Caroline Mandon et Marie Conquis à la programmation. Tous les autres épisodes de Confidentiel sont disponibles sur l'appli RTL ou sur rtl.fr. Vous pouvez les écouter quand vous voulez et autant que vous voulez.
RTL. Confidentiel. Ophélie Meunier.